Bonjour, ici Grégory Philips, je suis le chef du service reportage de BFM TV. C'est un jour d'élection en Russie. Jusqu'à dimanche, plus de 112 millions de Russes sont appelés aux urnes pour une présidentielle. En vérité, sans aucun suspense, Vladimir Poutine est évidemment candidat à sa réélection face à trois adversaires fantoches et il sera réélu. La seule inconnue, finalement, qu'on surveillera de près, c'est la participation qu'on connaîtra dimanche soir ou lundi matin. Ce scrutin se déroule quelques semaines après la mort de l'opposant Navalny, en pleine guerre en Ukraine et alors que les tensions entre Moscou et l'Occident sont chaque jour plus fortes. Pour raconter cette élection russe, BFM TV a deux équipes en ce moment à Moscou. Comment les journalistes français travaillent-ils sur place? Peuvent-ils faire leur métier en toute liberté ou alors sont-ils surveillés? On va en parler avec nos envoyés spéciaux, Paul Gogo et Jérémy Normand. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le vendredi 15 mars, il est 14h à Paris, 16h à Moscou. Journaliste dans la Russie de Poutine, c'est le 61e épisode du service reportage. Salut Jérémy, salut Paul.
Salut.
Salut Grégory.
Vous êtes tous les deux à Moscou en train de couvrir cette première journée de l'élection présidentielle. Jérémy, tu es arrivé il y a pas très longtemps à Moscou. Paul, depuis quelques jours. On va commencer avec toi, Jérémy. D'abord, tes premières sensations sur ce premier jour de scrutin. Qu'est-ce que tu as pu faire ce matin?
On regarde avec beaucoup d'attention la façon dont les policiers, dont les officiels nous laissent travailler. Obtenir ce visa pour venir couvrir cette élection n'a pas été facile, ça a pris des mois. À notre arrivée, on nous a posé des questions sur ce qu'on allait faire. Donc on sait que ce scrutin, il se fait sous surveillance. On est autorisé à constater qu'il se passe dans de bonnes conditions. C'est l'opération de transparence de Vladimir Poutine, mais on travaille dans des conditions évidemment particulières dans un pays qui menace régulièrement la France. Donc voilà la façon dont on travaille. On a pu ce matin accéder à un bureau de vote. On peut filmer dans le bureau de vote. On peut filmer les gens qui mettent leur bulletin dans l'urne, comme on pourrait le faire en France. Donc on veut nous montrer qu'il est possible de travailler, que la presse est libre. Voilà, je pense, le message que veut diffuser le Kremlin avec cette autorisation qui nous a été accordée.
Toi, Paul, tu as été correspondant à Moscou, tu connais très bien ce pays, tu y as vécu. Ne serait-ce que d'obtenir un visa et une autorisation de travailler, c'est effectivement un enjeu important pour les correspondants et pour les envoyés spéciaux?
Pour les envoyés spéciaux, particulièrement, c'est un miracle, parce que depuis le début de la guerre, la règle, c'est qu'on ne donne plus d'accréditation et de visa à ceux qui veulent venir de Paris. Et si moi, je peux encore venir en Russie, c'est parce que j'ai un visa de correspondant permanent que je renouvelle tous les 3 mois, mais parce que je suis considéré comme quelqu'un qui vit ici. Donc c'est effectivement une opération de communication de la part du Kremlin d'autoriser une poignée de journalistes, parce que très peu de rédactions parisiennes ont obtenu ce visa. D'autoriser une poignée de journalistes à pouvoir assister à ce moment démocratique, comme on ose encore dire ici en Russie, avec des limites qui, de toute façon, parlent d'elles-mêmes. On parlait de la présence de la police, on parlait de la façon dont tout ça se déroule. Enfin, moi, je retrouve quelque chose que je n'avais pas vécu depuis quelques années. Quand vous entrez dans un bureau de vote et que vous dites que vous êtes journaliste, vous mettez un de ces froids dans le bureau de vote. C'est assez fou.
Ils sont malins quand même parce qu'ils savent que nous, on va regarder notamment le vote électronique. C'est la première fois pour une élection présidentielle en Russie que les citoyens peuvent voter de façon électronique. Nous, de notre point de vue, on se dit que si fraude il y a, ça va être notamment par ce biais. Et donc, nous, ils nous ont autorisé ce matin avec Étienne Grelet à la caméra, ils nous ont autorisé à filmer ce vote électronique, à filmer notamment cette valise qui permet aux citoyens de voter depuis chez eux. Donc, on a pu accompagner des assesseurs, donc des officiels du gouvernement, rendre au domicile d'une famille moscovite et nous montrer comment tout cela se passe dans l'ordre, dans le respect de la confidentialité, dans le respect évidemment du code électoral. Donc je trouve qu'ils sont quand même malins sur leur opération de communication avec nous. C'est-à-dire qu'ils ne nous ferment pas toutes les portes. Au contraire, ils nous disent, mais bien sûr, venez, accompagnez-nous, regardez comment cela se passe bien, parce qu'ils savent que l'enjeu, il est là. C'est de permettre à l'ensemble de la population d'aller voter, d'avoir le plus large taux de participation pour que Vladimir Poutine soit bien élu. Ils savent que nous, c'est à ça qu'on va être attentif. Et plutôt que de nous fermer la porte d'emblée, ils nous laissent faire certaines choses. Je ne vous cache pas qu'on était un peu surpris qu'ils nous autorisent à aller les accompagner jusque chez les gens.
l'élection, il n'y a pas de suspense sur l'issue du résultat, mais le seul suspense, la seule question en suspens, c'est combien de Russes se déplaceront pour aller voter. Eh bien, pour ceux qui ne peuvent pas, pas de problème, le bureau de vote vient à eux. Nous sommes à Moscou, donc dans un appartement, l'appartement de Constantine, qui nous a gentiment accueillis. Il va voter dans un instant avec, à l'aide, pardon, de cette boîte, de cette valise électronique qui va lui permettre de voter. Ces deux personnes qui sont à ma gauche sont des assesseurs, des employés du gouvernement local qui s'assurent du bon déroulé du scrutin. Je vais maintenant demander à Constantine ce qu'il espère avec cette élection. What do you hope for with this election? Qu'est-ce que vous espérez de cette élection?
I like the changes that have been made before these elections by the current government.
Il aime les changements qui ont été faits depuis Vladimir Poutine au pouvoir avant cette élection. Oui, il espère, oui, j'espère qu'il sera réélu.
Sachant que moi, on m'a refusé de mon côté de pouvoir suivre une urne jusque chez les gens. Donc, c'est aussi ce que j'ai remarqué, c'est que d'un bureau à l'autre, on ne respecte pas les règles de la même façon. On ne comprend pas trop comment il faut traiter les journalistes et surtout les étrangers. Donc, il y a quand même une ouverture qui est claire, mais qui est limitée. Les autres élections étaient quand même un tout petit peu plus ouvertes que celle-là, même si effectivement, ils sont très fiers de leur vote électronique. C'est assez intéressant à observer.
Une question que se posent peut-être nos téléspectateurs, est-ce que vous êtes accompagné ou suivi par un policier ou quelqu'un des renseignements russes?
Paul, peut-être que tu as plus l'œil que moi sur les gens qu'il y a autour de toi.
De mon expérience aujourd'hui, j'ai trouvé ça très drôle parce que j'ai fait un premier bureau de vote où 5 policiers se sont retrouvés à photographier mon accréditation et mon passeport. Et derrière, je me rends dans un autre bureau de vote. Et là, il me dit « Mais vous êtes le Français qui s'est déjà rendu dans un bureau de vote ?» Je lui dis « Mais comment vous savez ça ?» Et en fait, des policiers, c'était très sympathique, ces policiers. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les élections, c'est le moment où on peut discuter avec eux. J'ai eu des discussions hallucinantes avec des policiers aujourd'hui. Et donc, ils rigolaient. Et puis, il y en a un qui monte son téléphone. Mais en fait, j'ai découvert qu'il avait une boucle WhatsApp, il m'a expliqué, qui concerne tout Moscou. Et alors, chaque fois qu'un journaliste étranger entre dans un bureau de vote, ils prennent la photo, ils l'envoient dans ce groupe WhatsApp, ce qui leur permet de savoir qui fait quoi dans le coin. Donc ensuite, ils vérifient qu'on a nos accréditations, tout ça, mais ils nous laissent travailler, sachant que ça reste limité. Ça veut dire que vous posez des questions avec 5 policiers autour de vous, quoi, si vous êtes dans le bureau de vote, ce qui est quand même assez compliqué pour faire parler les gens.
Alors moi, je connais bien moins la Russie que Paul, mais dès mon arrivée à l'aéroport, j'ai été reçu, entendu par un membre des services de douane ou de renseignement. À aucun moment, il n'a d'ailleurs eu à décliner ni son identité, ni son poste, hein, mais en tout cas, on était retenu avant de franchir la frontière de l'aéroport. Et là, on nous a gentiment prévenu qu'un employé spécial, c'est le terme, allait être chargé de notre sécurité durant notre séjour en Russie et qu'il allait donc pouvoir nous appeler ou venir à notre rencontre à tout moment pour bien sûr s'assurer qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. La meilleure surveillance, c'est quand il n'y a pas besoin de surveillance. Je m'explique, une fois qu'on me dit ça, qu'à tout moment je peux être appelé ou recevoir la visite impromptue d'un employé spécial du gouvernement, ben, moi, journaliste occidental, ma réaction logique, c'est de me dire « Oula, attention, il ne va pas falloir aller faire des choses compliquées, borderline, pour ne pas mettre nos interlocuteurs en danger, par exemple. Voilà le message qui nous est transmis dès notre arrivée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, moi, j'ai personne autour de moi. Je suis dans un café en plein centre de Moscou, tout se passe bien. Mais la surveillance, elle s'effectue par cette pression qu'on m'a exercée très directement dès mon arrivée. »
Et puis, vous êtes tous des journalistes français. On sait qu'on est dans un climat de tension assez forte entre les deux pays, la Russie et la France, avec notamment l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron hier soir. Est-ce que d'abord vous avez entendu parler de ça? Et est-ce qu'on vous interroge sur votre qualité de journaliste français?
Ouais, je me permets de commencer. Moi, j'ai effectivement... alors, j'ai eu deux interactions assez intéressantes sur ce sujet-là aujourd'hui. Tout d'abord, un policier qui m'a raconté un peu sa vie et qui m'expliquait que lui était chef d'orchestre dans le civil et qu'en fait, il adorait Joe Dassin, il adorait la musique française, Mireille Mathieu. Et du coup, la discussion s'est arrêtée là. Et c'est même lui qui m'a dit, vous savez, moi, je m'intéresse pas trop à la politique. Et j'ai compris qu'il avait pas envie de parler de Macron. Après, j'ai rencontré une vieille dame qui, elle, pour le coup, était fan radical de Vladimir Poutine et qui m'a expliqué que Macron était en train de faire une bêtise en jouant à Napoléon parce que on savait accueillir Napoléon en Russie. Donc voilà, mais tout en m'expliquant qu'elle adorait les Français et qu'elle adorait la France. Il y a ce truc en Russie de dire que quelque part les Français sont victimes de leur président, comme ils considèrent d'ailleurs que les Ukrainiens sont victimes de leur président.
Ouais. Jérémy, les Russes, les Moscovites ont regardé, ont pu entendre, ont pu voir Emmanuel Macron à la télévision française hier.
Non mais complètement, on vit une journée assez incroyable. C'est le premier jour de vote, c'est aussi le jour où à la télévision russe, on parle presque autant de l'intervention d'Emmanuel Macron que l'élection présidentielle russe. Il faut quand même se rendre compte de ce qui est en train de se passer.
La France considère la Russie comme son adversaire, telle la nouvelle déclaration de Macron. Il a refusé de qualifier notre pays d'ennemi, mais a dit qu'après la victoire de Moscou dans le conflit, la réputation de l'Union européenne sera détruite, mise à zéro. Il a reconnu l'état grave des forces armées ukrainiennes, qu'elles subissaient des pertes importantes. Et de nouveau, il n'a pas exclu l'envoi de forces françaises au sol en Ukraine.
Nous ayons systématiquement.
Moi, là, je sors à l'instant d'un appartement d'une famille de moscovites, de patriotes, qui me disent avoir vu ce matin le reportage à la télévision russe mentionnant l'interview d'Emmanuel Macron. Et dans ce même reportage, écoutez bien comment est appelé Emmanuel Macron, le petit Napoléon. Alors comment voulez-vous, moi, qu'ensuite je leur pose des questions sur l'impérialisme de Vladimir Poutine quand il envahit l'Ukraine, puisqu'ils ont l'argument tout trouvé, c'est-à-dire, mais regardez, votre président Emmanuel Macron qui nous menace, d'ailleurs on l'appelle même le petit Napoléon. Donc on est dans ce jeu de communication à la télévision qui fourbit les armes des patriotes pour répondre à nos questions lorsqu'ils nous acceptent chez eux. C'est quand même hallucinant de voir la place que prend la prise de parole d'Emmanuel Macron en ce premier jour de scrutin.
C'est une élection qui intervient aussi quelques semaines après la mort de l'opposant Navalny. Paul, d'ailleurs, t'étais sur place pour les obsèques au cimetière de Moscou. Est-ce qu'aujourd'hui, en Russie, quand on est journaliste, on peut aller interroger l'opposition, la véritable opposition, ou est-ce que c'est très compliqué ?
Bah, c'est surtout qu'elle n'existe plus vraiment, parce qu'en fait, ceux qu'on a vus à l'enterrement d'Alexei Navalny sont des gens qui, au quotidien, ne parlent pas de ce sujet-là et se cachent, et ils ont vraiment juste pas envie de s'exprimer sur cette question-là. Donc c'est quasiment impossible de les trouver, ces gens-là. Alors après, si on tombe par hasard sur des gens qui ont ce point de vue-là, moi ça m'est arrivé il y a quelques jours, j'ai pris un taxi pour aller faire un reportage dans un tribunal, et le chauffeur de taxi m'explique, moi j'aurais bien aimé aller à l'enterrement d'Alexei Navalny, mais j'ai pas pu aller parce que j'ai deux nationalités, je voulais pas prendre le risque d'avoir des problèmes, de me faire virer du pays. Mais je sais que ces gens-là existent et ça m'a permis de voir qu'ils existaient, mais je suis conscient que tout ce monde-là va redisparaître au lendemain de l'enterrement. Donc c'est assez compliqué à voir, et on attend de voir d'ailleurs ce qui se passera dimanche, parce que dimanche la veuve d'Alexei Navalny et une partie de l'opposition russe appellent à aller voter à midi comme signe de protestation, voter blanc ou pour tous les autres candidats sauf Poutine. Donc on verra si les gens répondent à cet appel.
Merci beaucoup. Je ne vais pas vous déranger beaucoup plus longtemps parce que vous êtes aussi sur l'antenne de BFM TV à raconter ce premier jour de scrutin. Jérémy, toi qui es l'envoyé spécial pour quelques jours, on entend les contraintes de tournage que vous rencontrez. Ça reste malgré tout très intéressant de pouvoir être à Moscou aujourd'hui, d'être en Russie aujourd'hui.
Non mais c'est passionnant de voir la réalité parallèle dans laquelle vivent les moscovites. La guerre, elle est complètement absente de leur quotidien. On était à l'instant dans une famille à qui je demandais, mais pour les produits du quotidien, pour faire la cuisine, qu'est-ce qu'il vous manque ? Quels sont les produits occidentaux que vous ne trouvez plus dans les magasins ? Et elle riait, la dame qui me répondait, elle riait en me disant, mais regardez le camembert qu'on achetait avant de marque française, nos entreprises ont appris à le fabriquer et aujourd'hui je mange du camembert russe. Bon, c'est anecdotique, mais ça dit bien l'état d'esprit conquérant et confiant dans lequel sont aujourd'hui une partie des habitants, ceux qui ne subissent peut-être pas trop difficilement ces sanctions occidentales. Là, la famille est une famille assez aisée. J'imagine que beaucoup d'autres Russes auraient des réponses différentes parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a des membres de leur famille qui sont envoyés à la guerre. Mais voilà, nous en tout cas, une partie de la réalité à laquelle on assiste aujourd'hui, une ville où la guerre semble bien loin des préoccupations quotidiennes des habitants.
Paul, toi qui connais vraiment bien ce pays, pour y avoir longtemps vécu, dans quel état tu trouves la Russie en ce mois de mars 2024?
Ouais, c'est d'une tristesse totale parce qu'en fait, ce vote, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, je suis allé voter Poutine, mais parce que mon employeur m'oblige, et sinon je me serais pas déplacé. Et en même temps, là, j'ai bien voté. Il m'a pas dit j'ai voté Poutine, il m'a dit j'ai bien voté en rigolant. Et en m'expliquant, de toute façon, ma voix changera pas grand-chose puisqu'on connaît tous le résultat. Et de toute façon, ce vote a été conçu pour qu'on puisse choisir le résultat, le taux de participation, qu'on puisse même choisir le résultat des opposants, parce qu'il faut, enfin les opposants, les autres concurrents, parce que le communiste nationaliste, parce que eux aussi il leur faut des voix, parce que sinon Vladimir Poutine va paraître illégitime. Et puis il y a aussi, j'en profite pour le préciser, mais ces élections elles ont aussi lieu dans les territoires occupés, dans le Donbass. Donc, là-bas on vote accompagné par des gens armés. Certaines personnes auraient été arrêtées après avoir refusé de participer à cette présidentielle. Donc tout ça est d'une tristesse totale en fait, parce que même ceux qui votent savent très bien que tout est décidé d'avance et qu'ils le font pour la forme, parce qu'on leur demande de le faire de cette façon-là. Mais ceux qui votent aujourd'hui sont majoritairement des gens qui ont décidé que Vladimir Poutine devait rester au pouvoir avec ou sans élection. Et les élections, c'est vraiment pour la forme, pour légitimer tout ça, la présence de Vladimir Poutine, surtout d'ailleurs aux yeux des autres Russes, ceux qui ne vont pas voter, et essayer de le légitimer auprès des yeux des Occidentaux aussi.
Et j'ajoute qu'il va falloir qu'on reste très attentif à ce qui peut se passer durant ce vote qui s'étale sur 3 jours. Là, aujourd'hui, au moment où on est en train de se parler, le feu a été mis à un isoloir. Est-ce en signe de protestation? On imagine en tout cas qu'un électeur de Poutine n'a aucun intérêt à brûler l'isoloir. Voilà le genre de... Voilà les derniers gestes à la disposition des rares opposants qui osent s'exprimer pour manifester leur mécontentement. C'est dire où l'on en est.
Mais je repense à ça, pardon, mais j'ai rencontré une observatrice aujourd'hui, parce qu'il y a encore des observateurs, et celle-ci était là au nom de Vladimir Poutine, d'ailleurs, une jeune femme, et elle m'a expliqué qu'on leur avait aussi passé la consigne de détecter les éventuels provocateurs. Et donc, en fait, maintenant, ils observent plus seulement les lois, les règles à appliquer dans un bureau de vote, mais aussi, quelque part, la tête de ceux qui viennent voter et leur attitude. Et bien sûr, les consignes poussent ces personnes-là à dénoncer toute personne étrange ou qui aurait une attitude pas anormale, on va dire, aux policiers qui sont dans le bureau de vote.
Avec effectivement la guerre qui n'est pas très loin, puisque ce matin, il y a eu des frappes russes sur la ville d'Odessa qui ont fait plusieurs morts et notamment des civils. Merci à tous les deux. Continuez à nous décrire ce qui se passe en Russie, à Moscou en ce moment. Continuez à nous raconter cette élection présidentielle russe, pas comme les autres. Et évidemment, on vous retrouve sur l'antenne de BFM TV tout le week-end jusqu'à dimanche soir et lundi. Merci à tous les deux. Bon courage.
Merci.
Allez, bye. Bye.
Avec plaisir. Merci, Greg.
Voilà, c'était l'épisode 61 du service reportage, à retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast et sur BFMTV.com. À bientôt.